Je vous invite à la méditation du texte de la parole de Dieu. Nous allons méditer une parole de Jésus, mais avant cela, nous lisons un texte de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe. Il s'agit d'une invective du prophète contre une alliance qui ne tient pas, où on essaye d'avoir recours aux moyens humains au lieu de faire confiance à Dieu. Nous lisons donc d'abord dans Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 14. Écoutez donc la parole du Seigneur, insolent, vous qui dominez sur le peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le déferlement destructeur passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons le mensonge pour abri et la fausseté pour cachette. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement fondée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas à se hâter de fuir vraisemblablement. J'ai placé l'équité comme règle et la justice comme niveau. La grêle emportera l'abri du mensonge. Les eaux déferleront sur toute cachette. Votre alliance avec la mort sera annulée. Votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Quand le déferlement destructeur passera, il vous écrasera. Et un deuxième texte se trouve cette fois-ci donc dans le Nouveau Testament, c'est celui sur lequel nous méditerons. Parole de Jésus qui conclut le sermon sur la montagne. Mais nous lisons la version dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer, dit Jésus, à quoi il est semblable. Il est semblable à un homme qui construit une maison. Il a creusé profondément et posé des fondements sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle avait été bien construite. Mais celui qui entend et ne met pas mes paroles en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée, et la ruine de cette maison a été grande. Nous avons là une courte parabole bien dans le style de la manière de parler de Jésus. Jésus aimait employer un langage imagé. Mais de toutes les paraboles de Jésus, c'est peut-être celle qu'on a le plus réduite à une petite histoire pour enfants. La raison, certains d'entre vous la devinent, c'est le fait que dans bien des familles, dans bien des églises, on apprend tout petit un cantique qui dit « Le sage sur le roc a bâti sa maison, le fou sur le sable a bâti sa maison. » Et ça se termine en disant « Enfant sur Jésus, bien bâtir ta maison. » On connaît tout cela depuis qu'on est enfant, si bien que quand on passe à l'âge adulte, on garde cette espèce d'association entre cette parabole et ce chant d'enfant et ces souvenirs d'enfant. On la considère peut-être comme quelque chose d'un peu gentil, mais quelque chose qu'on a compris finalement, et sur quoi on peut passer rapidement, puisque c'est bon, c'est acquis, on passe plus loin. Il est fort possible qu'il n'en soit pas du tout ainsi, en vérité. Un premier indice est certainement la position de cette parabole de Jésus, juste à la fin du sermon sur la montagne. Dans Matthieu comme dans Luc, elle conclut le sermon sur la montagne, l'un des discours de Jésus les plus importants. Un discours où il a ciselé chaque parole de manière très précise. Peut-on imaginer une chute à un tel discours, une chute un peu enfantine, à des paroles tellement travaillées par notre Seigneur Jésus? Essayons donc de voir d'un peu plus près ce qui nous est enseigné ici. Et nous chercherons à discerner peut-être d'abord la façon dont les gens qui écoutaient Jésus pouvaient recevoir cette parole dans leur contexte historique, dans leur contexte culturel et religieux aussi, pour voir ensuite ce qu'elle signifie pour nous. La construction de cette courte parabole est claire, elle est facile. Il y a deux oppositions bien marquées. L'opposition majeure, donc, est entre celui qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique, et celui qui, au contraire, les entend et ne les met pas en pratique. C'est l'opposition fondamentale qui structure cette parabole. Et elle se double d'une deuxième en forme d'images qui vont illustrer ces deux attitudes. C'est comme bâtir d'un côté une maison dont les fondations sont du roc et d'un autre dont les fondations ne sont que de la terre, comme une maison pratiquement sans fondation. La tempête survient et la différence là est criante. La première maison n'est pas ébranlée, la seconde s'est écroulée et la ruine de cette maison est grande. Si vous vous souvenez de la façon dont Matthieu rapporte cette parabole, vous aurez remarqué une petite différence d'accent entre Matthieu et Luc. Sur la base de la même histoire, Matthieu oppose le caractère démontré par chacun de ses constructeurs. Il y a d'un côté quelqu'un d'avisé, de l'autre côté quelqu'un qui est insensé, qui est fou. Luc, quant à lui, oppose plutôt l'œuvre de chacun, une maison avec ou une maison sans fondation. Alors cette parabole a certainement perdu pour nous une partie de l'impact qu'elle avait au temps de Jésus. Nous, aujourd'hui, quand on veut construire une maison, on commande d'abord la pelle mécanique pour creuser les fondations. Ensuite, le mortier arrive et c'est un camion qui amène tout ça. Tout ce qui est lourd est déchargé par des moyens mécaniques. Parfois, dans certaines maisons préfabriquées, c'est des pans entiers de murs qui sont soulevés par une grue et amenés d'un coup posés pour que les choses avancent. Je me souviens que notre maison à Nîmes était construite sur ce modèle-là. Et en quelques jours, on a vu les pans de murs qui sont montés à une vitesse extraordinaire. Voilà, beaucoup de moyens, beaucoup de facilités. Et pourtant, malgré cela, construire une maison reste pour nous une épreuve épuisante. C'est pas facile de construire une maison. Tous ceux qui l'ont fait le savent. Alors, on peut, par contraste, mesurer ce que cela représentait aux temps anciens de construire une maison. Une tâche immense, un temps, une patience, une fatigue, autre chose qu'aujourd'hui. On a du mal, certainement, à se représenter tout ce que ça impliquait. Tout à la main, les amis. Chaque pierre trouvée était ressenti. Si vous passiez la baramine ou la pioche, chaque pierre vous la sentiez. S'il fallait déplacer une pierre, c'est vous qui la portiez, tout à la main. Ces maisons-là, si on faisait le bilan global du poids de la maison, on pouvait dire que tout le poids de la maison avait été porté par des hommes. Voilà ce que veut dire construire une maison. Chaque pelletée de terre déplacée ou creusée, c'est autant pour les bras, autant pour le dos de celui qui construit. Et cette tâche colossale, il fallait la vivre au milieu des autres responsabilités et difficultés de la vie à assumer aussi. Une tâche importante que Jésus évoque avec cette image dans cette parabole. En Israël, en Palestine, on ne construisait qu'en été. En effet, au printemps, en hiver, c'était le moment où il y avait plus de pluie. L'été offrait les journées sèches qui étaient propices à la construction. Mais il y avait un petit revers à cette médaille du beau temps en été pour construire. C'est que le sol pendant l'été, le sol était dur. Le sol était sec. La couche de terre et d'argile, là où il y en avait, était dure, mais vraiment dure. Le livre du Lévitique en parle d'abord, d'ailleurs. Il dit « Lorsqu'il y aura des périodes de sécheresse, le sol de votre pays sera comme du bronze. » Comme du bronze. Ça dit quelque chose de la solidité de ce sol à ce moment-là. Alors vous imaginez un villageois avec ses outils manuels simplement, qui doit creuser ses fondations dans du sol, c'est de la terre, oui, mais qui est devenu sèche et comme du bronze. On comprend qu'après quelques tentatives de coups de pioche en plein soleil, quelqu'un puisse se dire comme le deuxième personnage de notre parabole, « Oh là là, le sol est trop dur, je vais construire là-dessus finalement, c'est assez dur, je construis dessus. On fera une maison pas trop haute, pas trop grande, ça tiendra. Et au moins, j'aurais fini avant l'hiver et je ferais ça sans me casser complètement. Et en effet, on imagine le projet qui aboutit avant l'hiver, la maison construite sur ce sol assez solide quand même finalement. Ce sol de bronze. Mais cet hiver-là, les pluies sont plus fortes que d'ordinaire. Le sol qui était si dur en été commence à se détremper. Et des filets d'eau commencent à courir un petit peu partout. Et l'argile si dure en été commence à se ramollir un petit peu. Les bases sur lesquelles se trouvait la maison commencent à être un peu moins stables que ce qu'elles n'étaient de manière uniforme avant. Et tout bouge. Les murs ne sont pas en parpaing dans ces constructions, hein, mais c'est des morceaux de pierre qui sont assemblés, jointés avec un peu de boue aussi. Et voilà que petit à petit, à cause du sol qui devient un peu plus instable, on voit quelques fissures, et un peu plus, et un peu plus, une fente apparaît, quelques pierres tombent ici, et un beau jour, finalement, toute la structure s'effondre. Le scénario décrit par Jésus ici est un scénario plausible. Il s'est même déroulé, il n'y a pas si longtemps, en 1991, à Jérusalem, ou dans une banlieue de Jérusalem. Une partie d'un immeuble avait été construite justement sur un sol plus meuble que le reste. Et ce sol, cette partie centrale d'un grand immeuble, a commencé à bouger, et ce qui a fait que toute la partie centrale de l'immeuble s'est écroulée. On a retrouvé quelque chose du genre de cette parabole ici, mais sur un ensemble plus vaste. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en Israël, le rocher solide existe partout. Le rocher solide existe partout. Si on a construit dans une vallée, il faudra creuser certainement pour arriver au rocher. Il faudra creuser peut-être 1 mètre, 1,50 mètre pour arriver à ce rocher. Mais on y arrive si on creuse. Par contre, sur les hauteurs, bien sûr, le rocher est beaucoup plus à fleur. Et si vous demandiez à un villageois du temps de Jésus, et même encore aujourd'hui, combien faut-il creuser pour bâtir une maison, la réponse est la même partout. Il faut creuser jusqu'à ce qu'on arrive sur le rocher. C'est ça la règle, c'est le même principe, quelle que soit la hauteur de sol, c'est cela qu'il faut faire. Et Jésus certainement avait bien observé cela. Rappelons que Jésus était du bâtiment quand même, hein. Son père était charpentier, hein, donc il était du bâtiment, et donc il connaissait ces choses-là. Mais Jésus connaissait aussi autre chose que le bâtiment. Jésus connaissait aussi parfaitement les Écritures, qu'il avait beaucoup médité. Et dans le livre du prophète Ésaïe, il existe un texte qui lui aussi parle d'un abri qui a été construit et qui est détruit, qui se détruit par manque de fondation. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 28. Que se passe-t-il au moment où le prophète parle, donne cet oracle, cette prophétie? Israël est menacé par l'armée des Assyriens. Ces Assyriens, ce sont à ce moment-là, c'est vraiment la puissance qui monte, et les Assyriens conquièrent un pays après l'autre. Et voilà les Assyriens qui s'approchent d'Israël, de la terre d'Israël, pour en faire sa proie comme tous les autres. Et les chefs d'Israël choisissent de faire une alliance avec l'Égypte. L'Égypte, l'autre pays, l'autre grande puissance. Faire confiance en Dieu, ça ne semble pas réaliste, parce que les Assyriens sont là, ils ont mangé tellement d'autres peuples avant. Il faut du concret, il faut quelque chose de plus efficace. Alors on s'allie à une puissance forte, l'Égypte. Et c'est ça la solution, c'est ça l'abri, c'est ça le refuge que l'on essaye de donner au peuple dans cette situation de crise. Ésaïe s'oppose fortement à cette conduite. Et il reprend ironiquement les paroles qui vantent cette alliance. Et il les tourne un peu en dérision. C'est une alliance qu'ils ont faite et ils s'en vantent. Mais, dit Ésaïe, une alliance avec la mort. C'est un pacte qu'ils ont fait, un pacte solide. Mais, dit Ésaïe, un pacte avec le séjour des morts. Hein, vous essayez d'y trouver le refuge qui vous permettra d'avoir la vie sauve. Et en fait, vous faites une alliance avec le mensonge, avec la fausseté. C'est pas cela qui va vous donner selon les espérances qui sont les vôtres. Voilà ce que dénonce Ésaïe. Mais en même temps, le Seigneur lui donne une parole d'espérance. Et c'est toujours comme ça, avec le Seigneur, rien n'est jamais perdu. Dieu n'abandonne pas son peuple. Et Dieu promet qu'il va garder un recours et un vrai celui-ci pour son peuple. Et il annonce qu'il mettra en Sion, à Jérusalem même, il mettra en Sion une pierre de fondation, une pierre solide, une pierre sûre. Et dit le Seigneur, celui qui prendra appui sur cette pierre ne sera pas ébranlé. Il n'aura pas hâte de fuir, il tiendra bon parce qu'elle offrira un refuge véritable. Et sur ce fondement que Dieu va donner, on pourra bâtir autre chose que des abris de fausseté. On pourra faire du solide. On bâtira aussi avec des outils particuliers. Il s'agira de prendre l'équité comme règle de construction. Il s'agira de prendre la justice comme niveau pour tout bien aligner. Mais voilà ce qui va être donné par le Seigneur et ce qui va remplacer l'abri trompeur de la confiance que l'on met en l'homme. Que pense-t-on de cette parole au temps de Jésus ? Que pense-t-on, qu'attend-on, comment conçoit-on cette parole ? Comment résonne-t-elle dans les esprits, cette prophétie d'Ésaïe ? Il y avait, vous le savez, à Qumran, une communauté de personnes qui avaient voulu quitter la vie courante pour vivre une vie de sainteté et vraiment être ceux qui seraient le peuple qui préparerait vraiment la venue du Seigneur que l'on attendait. Et les membres de la communauté de Qumran s'appropriaient ces paroles. Et en fait, ils disaient que leur but était en quelque sorte de constituer un groupe de 12 hommes pieux et de 3 prêtres. S'il pouvait y avoir, disaient-ils, 12 hommes vraiment pieux selon la loi, des hommes qui vraiment auraient une vie parfaite du point de vue de ce que Dieu attendait des hommes, du point de vue des œuvres que Dieu désire dans sa loi, et 3 prêtres, si ce groupe de 15 personnes pouvait se constituer, alors le fondement serait donné, ce fondement sur lequel pourrait être bâti la nouvelle construction du Seigneur. Voilà comment ce texte était compris dans cette communauté-là. À Jérusalem, par contre, les chefs religieux voyaient les choses autrement. Ils disaient que, après le moment où le coffre de l'Alliance avait été emporté par les Babyloniens, vous savez qu'à la destruction de Jérusalem, le coffre de l'Alliance, qui était dans le lieu très saint, dans le temple, avait été emporté aussi, détruit certainement. Après cela, une pierre était restée dans le temple, à l'endroit où se trouvait grosso modo le coffre de l'Alliance. Et cette pierre qui était là dans le sol du temple, disait-on, datait des prophètes. Et cette pierre, les chefs religieux l'appelaient la pierre de fondation, la fondation. Elle dépassait légèrement le niveau du sol de quelques centimètres dans le lieu très saint, même du temple reconstruit par Hérode. Et c'est sur elle que l'on déposait, si vous voulez, une fois par an, les braises brûlantes et l'encens lors du grand jour des expiations, le Yom Kippour. Pour eux, c'était vraiment l'endroit le plus sacré du monde. Et c'était un endroit à Sion. La pierre était là, à Sion. Comment ne pas faire le lien entre cette prophétie d'Ésaïe et cette pierre qui se retrouvait là, à Sion? Autrement dit, pour ces hommes-là, c'était le temple, le sacrifice et ses rituels qui allaient être cette pierre de fondation qui permettrait au Seigneur de donner cette construction solide. Vous voyez qu'ici que Jésus propose une autre voie, une troisième voie. Jésus dit, celui qui écoute et qui met mes paroles en pratique, c'est celui-là qui sera sur le bon fondement. C'est celui-là qui sera vraiment sur cette pierre qui tient bon. C'est cela qui sera le fondement qui permet vraiment de bâtir un vrai refuge, de bâtir vraiment, de construire sa vie selon ce que Dieu a promis. Et c'est comme si dans cette courte parabole où Jésus oppose aussi ces deux maisons, et ça renvoie à ce texte du prophète Ésaïe, c'est comme si Jésus disait « Je suis moi cette pierre » que le prophète Ésaïe a promise, construisez sur moi, construisez sur mes paroles, et vous tiendrez, vous ne serez pas ébranlés si vous construisez sur mes paroles. Et plus tard, lorsque Jésus d'ailleurs parlera du temple, hein, il dira bien que du temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Mais que, par contre, ses paroles à lui, elles tiendront même si ciel et terre passeront. Et l'histoire, d'ailleurs, confirmera cette parole de Jésus. Hein, une génération après lui, le temple est détruit. Mais Jésus, le vrai temple de Dieu, celui qui apporte vraiment, non pas dans un bâtiment, mais dans sa personne, la pleine présence de Dieu, la pleine présence du Seigneur, Jésus, bien avant cette destruction du temple de Jérusalem, aura mis en évidence, par sa mort, par sa résurrection, le fondement qui demeure envers et contre tout. Alors certes, il aura fallu que Jésus meure, qu'il soit livré en sacrifice pour nos péchés, qu'il subisse la condamnation que méritaient toutes nos fautes. Et c'est un peu comme si, à ce moment-là, le temple qui était Jésus, en sa personne, s'est trouvé détruit par les flots qui se sont abattus sur lui. Mais par-delà les flots de la mort, mais par-delà les flots du terrible jugement que Jésus a enduré, le Seigneur est revenu à la vie. Le fondement aura tenu malgré la tempête, à travers la tempête. Et le temple qu'est Jésus est rebâti en 3 jours, comme il l'avait annoncé aussi de manière un peu imagée. Et désormais, il fait sa demeure parmi les siens, parmi son peuple, pour l'éternité. Jésus donc a vraiment montré qu'il est ce fondement promis par Dieu, cette pierre de construction sur laquelle on peut s'appuyer pour fonder sa vie, pour le salut, pour une pleine réconciliation avec Dieu. Et sur ce fondement aussi, c'est tout le projet de Dieu pour les hommes qui peut s'appuyer, prendre appui véritablement. Dieu se bâtit un peuple nouveau, élargi à toutes les nations sans distinction, sur cette pierre de fondement qu'est Jésus. Et chacun de ceux qui placent personnellement sa confiance et son appui en Jésus et non pas en soi-même pour le salut, chacun peut se découvrir alors sur un rocher et dans un refuge qu'aucune tempête n'emportera. Assurons-nous ce matin, chacun d'entre nous, que nous avons bien fait cette démarche de chercher en Jésus notre refuge, de chercher sur le fondement que lui nous offre, le salut qu'il nous donne, et de le faire en lui faisant confiance à lui, à son œuvre, et non pas à nos possibilités humaines. Nous ne pouvons pas construire notre salut sur nous-mêmes, sur notre propre impeccabilité. S'il avait fallu attendre les 15 hommes de Qumran, on y attendrait encore aujourd'hui. C'est le Seigneur qui donne un fondement nouveau et non les hommes. Il y a là un recours à saisir, une confiance à donner au Seigneur dans un plein engagement de vie. Voilà donc les bases fortes sur lesquelles Jésus peut dire que ses paroles sont le fondement et le refuge contre toute chose, toute tempête. Mais il faut bien saisir que Jésus nous dit autre chose encore. Et là, il s'agit d'une interpellation qui nous engage. Mes paroles, nous dit Jésus, sont un fondement. Mais encore faut-il les mettre en pratique. Car ce qui fait la différence entre une maison qui tient et une maison qui ne tient pas face aux tempêtes de la vie, c'est le fait que l'on mette ou que l'on ne mette pas en pratique les paroles de Jésus. C'est ça ce que Jésus dit. Il le dit très clairement. Jésus nous dit, vous pouvez connaître tout ce que j'ai enseigné. Ce qui compte, c'est la mise en pratique. Vous pouvez connaître tout sur le bout des doigts, les béatitudes. Vous pouvez connaître sur le bout des doigts tout le sermon sur la montagne. Vous pouvez connaître sur le bout des doigts le Notre Père. Cela ne nous servira de rien si nous ne l'appliquons pas. Nous serons comme, si nous n'appliquons pas, ceux qui pensent construire sur du solide, parce que la terre est dure en été, mais qui n'ont pas creusé jusqu'au rocher. Le rocher ne se trouve que lorsque l'on met en pratique la parole du Seigneur. C'est ce qui fait la différence entre les deux maisons. Et ici, nous sommes véritablement interpellés par la parole de Jésus. Parce que nous considérons assez facilement que peut-être, eh bien oui, nous avons mis notre foi en Jésus. Eh bien maintenant, parce que nous avons mis notre foi en Jésus, oui, nous sommes sur le rocher du salut, c'est très bien. Par définition, nous y sommes, tout va bien. C'est vrai, oui, d'une certaine manière. C'est vrai quant au salut. C'est vrai quant à la vie éternelle. Le Seigneur nous a fait ce don de nous donner le salut comme une maison solide qu'aucune tempête ne pourra ébranler. Mais les paroles de Jésus ont trait aussi à d'autres choses qu'au fondement même du salut. Les paroles de Jésus ont trait aussi à toute la vie qu'il nous appelle à construire. La vie que nous construisons chaque jour, au travers des paroles que nous prononçons, le Sermon sur la montagne en parle, au travers des jugements que nous avons sur les autres, la vie que nous avons à construire dans notre vie conjugale, dans nos relations, dans nos embrouilles, parfois dans nos querelles, par notre générosité, dans notre rapport à l'argent, dans notre confiance ou nos inquiétudes face aux choses de la vie. C'est de tout cela dont Jésus nous parle dans le Sermon sur la montagne. Son projet pour nous concerne toute notre vie. Et je crois qu'ici, la parole de Jésus, nous devons l'entendre. Et il nous faut regarder la réalité en face. Nous pouvons très bien avoir reçu le fondement solide du salut et pourtant saper complètement tous les fondements de nos relations avec les autres, par exemple, parce que nous sommes infects dans nos paroles ou durs dans nos jugements. On peut très bien faire cela. Nous pouvons très bien avoir reçu le fondement solide du salut et laisser notre vie de couple être sapée dans ses fondements par l'infidélité, par les querelles, par le refus de pardonner ou de demander pardon. Nous pouvons très bien avoir reçu le fondement solide du salut et saper les fondements de notre vie chrétienne. Parce que, finalement, concrètement, c'est l'argent ou c'est le toujours plus qui dirige tous nos choix. Nous pouvons très bien avoir reçu le fondement solide du salut et nous trouver sans aucune force ni aucune sérénité face aux circonstances difficiles parce que nous n'avons pas appris régulièrement à marcher pas à pas pour les petites choses de la vie dans la confiance avec Dieu, envers Dieu, dans la fidélité à ses commandements. Le recours à ses promesses. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons le fondement du salut, oui, et pourtant, écouter les paroles du Seigneur et les mettre en pratique, c'est essentiel. Le prophète Ésaïe disait quelque chose de semblable avec une autre image. Quand il disait cette nouvelle construction sur le fondement, il ne faudra pas construire n'importe comment. Il y a une règle dont il faudra se servir pour faire des murs droits. Il y aura des niveaux pour faire l'aplomb. Et le prophète disait, j'ai placé l'équité comme règle, la justice comme niveau. Il disait, sur le fondement reçu, il s'agit de bâtir de manière juste, avec équité, avec droiture. On ne construit pas n'importe comment. Nos principes d'action, nos principes de vie sont déterminants. Nos principes, ce sont nos valeurs, celles que nous donne la parole de Dieu. Mais ces valeurs, il nous faut les appliquer, les mettre en œuvre dans la construction concrète, quotidienne de notre vie. Et cela, il faut y veiller à chaque pierre qu'il faut dresser pour construire en quelque sorte notre vie. Vous savez, dans le sud de la France, et Pierre-Étienne et John nous en savent un mot, en savent quelque chose, on fait beaucoup de murs en pierre sèche. C'est beau, c'est magnifique ces murs en pierre sèche, hein. C'est vrai que pour la construction de notre église à Nîmes, on en avait intégré pas mal. On en avait à l'intérieur même du bâtiment des murs en pierre sèche. Et puis, on avait presque au moins 200 mètres de clôture qui étaient montés uniquement en pierre sèche. Alors, je peux vous dire qu'on savait ce que voulait dire monter des murs en pierre sèche là-bas. Mais je peux vous dire une chose. Quand on a des murs en pierre sèche, c'est chaque pierre que l'on met dans le mur qu'il faut ajuster. Choisir, positionner, bien mettre, veiller à l'aplomb. C'est chaque pierre que l'on met dans le mur qu'il faut ajuster, si vous voulez rester droit. Les beaux murs, ceux qui tiennent, c'est ceux qui ont bénéficié de cette attention, de cette vigilance, pierre après pierre. Et je crois que c'est ce que Jésus nous dit ici aussi à sa façon, en nous disant qu'il est important d'appliquer ses commandements. Il est lucide. Jésus sait que nous ne serons pas à l'abri des tempêtes. Et je dirais même, Jésus sait qu'aucun aspect de notre vie n'est à l'abri des tempêtes. Et pourtant, Jésus ne veut pas nous faire paniquer par rapport à cela. Il a une meilleure recette que de nous faire craindre les tempêtes. Il dit, construisez des murs solides face aux tempêtes. Veillez vraiment à construire du solide. Et pour cela, c'est recevoir mes paroles, nous dit Jésus, et les mettre en pratique. Et les mettre en pratique au fur et à mesure de chaque aspect de la vie. Dans chaque domaine de la vie, dans chaque situation de la vie. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va faire sera parfait. Hein, parce que les paroles de Jésus invitent aussi à savoir revenir quand on a fait faux, revenir à une base plus saine et revenir à ce qui est, à ce qui est juste. Mais ces paroles nous donnent une base personnelle, relationnelle, pour reprendre ce qui doit être, être repris et pour poser des fondements solides pour des nouveaux départs au fur et à mesure. Pour construire solide, il n'y a qu'un seul chemin qui nous est rappelé ce matin, c'est écouter et mettre en pratique. Le faire encore et encore. Le faire tout à l'heure quand on va sortir du culte. Le faire demain au travail, à la maison. Le faire à tout moment. Le faire face à tout ce qui survient. Celui qui entend les paroles, nous dit Jésus, et qui les met en pratique, sera comme un homme avisé qui construit une maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités même sur cette maison. Mais elle n'est pas tombée,